partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Il y a Renan qui me fait un petit signe. On va se présenter, vous n'ayez pas peur, mais il y a Renan qui me fait un petit signe parce qu'on a commencé avant l'heure.
On est à l'heure.
On est pile à l'heure, mais le générique, il a commencé. Le générique, il a commencé avant l'heure. Amnesty, c'est la seule émission qui commence plus vite que son nombre.
Non, j'envoie le générique à 59, on a commencé à 19h.
Oui, mais t'as envoyé le générique avant. Bonsoir, donc c'est le groupe d'Amnesty International Évreux, dernier mardi du mois, comme tous les mois, une heure d'émission sur les droits humains, la défense des droits humains et toutes les actions d'Amnesty par rapport à ce vaste sujet. Donc avec moi ce soir, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Renan, je vous ai vendu son nom avant de, qu'il ait le temps de parler, mais voilà, qui nous fait la technique. Et puis moi. Voilà. Et moi, tout seul, je suis au moins 4 personnes.
Bon, on va partir.
Bon. Donc ce soir, trêve de plaisanterie. Enfin, il faut toujours plaisanter. Ouais, même sur les sujets les plus sérieux, il faut toujours avoir une distance.
On est content de vous retrouver.
Une distance d'humour. On est content de vous retrouver, tout à fait. On espère aussi que vous, de l'autre côté des ondes, vous êtes content de nous entendre.
Oh, j'en suis sûr.
Donc ce soir, parmi les sujets, on va vous parler des préoccupations qu'a Amnesty par rapport à la prolongation de l'état d'urgence. Ça va faire partie de la première, une des premières chroniques. On va vous parler des droits des migrants, des jeunes mineurs, des réfugiés et des problèmes à Calais. C'est Sabine et Edith qui vont vous en parler. On va vous parler d'une action très particulière qui est lancée par le centre Primo Levi. Donc ça, vous le saurez tout à l'heure, plutôt vers la fin de l'émission. Et puis, il y aura toujours, bien sûr, quelques pauses musicales. Il y aura les bonnes nouvelles de Renan. Et puis, d'autres choses, nos actualités locales. Et puis aussi, oui, une chronique, Edith me fait signe, une chronique sur un film qui sort et qui est défendu par Amnesty, L'homme qui répare les femmes. Mais c'est donc Edith qui vous en dira plus tout à l'heure.
Et pour une fois, moi, je vais prendre la parole en premier. Parce
voilà,
que
et c'est Renan qui commence.
C'est vrai que d'habitude, c'est toujours Didier qui annonce, mais là, on a quand même une bonne nouvelle, j'aurais même une très bonne nouvelle. Donc, vu qu'il paraît que je suis Monsieur Bonne Nouvelle, donc je commence par cette nouvelle.
Elle est pour toi.
Donc, on vous a déjà parlé, c'est Albert Luther Fox.
Et on lui dédie l'émission ce soir.
Ah, tout à fait. Albert Luther Fox vient d'être libéré le 19 février 2016. Donc, ça devait être vendredi ou samedi.
Oui.
Vendredi dernier.
Vendredi, il retrouve la liberté après 43 ans d'emprisonnement. Albert avait 25 ans lorsqu'il a été placé sous le régime de l'isolement en prison. Il a toujours clamé son innocence, affirmant qu'il était dans le viseur des autorités du fait de son engagement en prison dans le parti des Black Panthers. Sa condamnation s'est principalement basée sur le témoignage à charge d'un co-détenu qu'il a dénoncé en échange de sa propre libération. Depuis plus de 40 ans, donc ça fait même 43 ans, Albert passait 23 heures par jour confiné seul dans une petite cellule avec peu de lumière naturelle. Il n'a jamais eu le droit de communiquer avec les autres détenus. Il n'a jamais pu travailler, n'avoir accès à quelque forme de réinsertion que ce soit. Il avait seulement le droit de sortir de sa cellule 3 heures par semaine afin de faire de l'exercice toujours seul. Et il avait justement, il avait fait une lettre... En fin d'année, pour la nouvelle année, il a fait une lettre donc à Amnesty, où il disait « Je ne sais pas ce que représente pour vous le nouvel an. Pour moi, c'est la prise de conscience qu'une nouvelle année de torture mentale et émotionnelle débute. Je me demande constamment si cette année sera celle du triomphe de la justice et de la liberté, ou si ce ne sera qu'une année de plus identique aux autres. Bon, » aujourd'hui, on peut répondre qu'il a été libéré.
Enfin, et on l'a beaucoup écrit pour lui, on est très, très, très heureux.
Voilà.
Et c'était son anniversaire.
Il a été libéré le jour de son anniversaire, je pense.
Mais ils auraient pu faire 40 ans.
Je pense que les autorités de Louisiane l'ont fait exprès, mais c'est vrai qu'ils l'ont fait très tard.
Je ne l'avais pas, cette info.
Bon. Donc, on lui dédie bien sûr l'émission. C'est une excellente nouvelle.
Une très, très bonne nouvelle.
Et puis, on fait aussi un petit bonjour à tous les gens qui sont venus, les militants d'Amnesty ou les sympathisants qui sont venus poser pour la pétition photo qu'on avait fait à l'expo du 30 novembre. On avait eu à peu près une trentaine de clichés qui sont bien sûr partis à Amnesty États-Unis en soutien à Albert. Et donc, on leur dédie aussi à ses amis. Albert, bah oui, ça s'appelle Albert.
Et hein. On lui souhaite un bon anniversaire. Bah,
c'est... Non, mais après ça, tu en parles comme
non, mais Amnesty, des gens qu'on défend depuis longtemps, ils se créent. Non, mais il y a des liens, même si on ne voit jamais ces gens-là, même si on ne les rencontre pas, ils se créent toujours des liens. Ça, c'est aussi le travail d'Amnesty. Et oui, c'est vrai que ces gens-là, on les appelle facilement par leur prénom.
Et on peut juste rappeler, peut-être, Didier, que les trois d'Angola, donc, dont fait partie Albert Woodfox, le premier a été libéré il y a quelques années.
Tout à fait.
Le deuxième a été libéré. Trois jours avant de mourir d'un cancer.
Il est mort juste après,
Albert Woodfox, lui, est libéré, on lui espère des années.
Bah, il a 68 ans, apparemment, il n'a pas l'air en trop mauvaise santé. Ouais. Et puis, donc, on pense qu'il va pouvoir profiter. Et donc, depuis samedi matin, il a pu dormir chez lui et il a pu voir autre chose que, comme vous disait Ronan, quelques mètres carrés cellule, d'une sinistre cellule. Voilà. Donc, on a gagné. Voilà. En gros, on peut définir ça contre les autorités américaines.
Les autorités qui perduraient dans leur.
On a gagné. Donc, c'était pour vous dire qu'Amnesty, bah, effectivement, ça sert à quelque chose. Donc, Amnesty se préoccupe aussi de l'actualité franco-française, dirons-nous, et par rapport à toutes ces histoires d'état d'urgence, de prolongation de l'état d'urgence qui va être passé dans la Constitution. On nous en parle, on nous en reparle, on nous dit « mais c'est pas dangereux, mais c'est pour prévenir, c'est pour garantir la sécurité des gens et éviter que de nouvelles victimes, comme ça s'est passé au mois de novembre, finissent face à des fous furieux qui massacrent à coups de Kalachnikov. C'est pour faire tout ça. » Oui, et ben nous, on est très sceptiques. Et donc, je vais faire un petit exercice. Je pense que c'est la première fois qu'on fait ça dans le cadre de nos émissions, mais je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. Et voilà, c'est un petit peu de politique fiction. Mais encore une fois, tout ce que je vais vous dire dans le texte, c'est tiré des mesures qui sont prises actuellement. Alors voilà, ça commence comme ça. Mai 2017, une candidate, nommons-la MLP, fortement marquée à droite, est élu d'une très courte majorité à la présidence de la République. Juin 2017, aux élections législatives suivantes, son parti reste minoritaire en siège, mais des alliances se nouent rapidement avec des élus plus modérés, permettant de dégager une majorité de circonstances. Été 2017, MLP et son gouvernement se livrent à un vaste plan de renouvellement des représentants administratifs de l'État, en particulier des préfets. Automne 2017, alors que le ton n'a cessé de monter entre groupes ouvertement fascisants revendiquant l'appartenance politique avec la présidente MLP et des représentants de diverses minorités de la société française, issus par exemple de l'immigration maghrébine ou de l'immigration noire ou des minorités sexuelles, etc., et ce depuis 4 mois, les premières échauffourées éclatent en banlieue parisienne, puis en province. Les premières enquêtes journalistiques montrent que le parti de la présidente, alors qu'il s'en défend, instrumentalise des groupuscules de droite extrêmes qui se livrent à ces agressions. Parallèlement, le nombre de manifestations antisémites, cimetières profanés, croix gammées taguées, insultes diverses, bat tous les records. En novembre 2017, les premières victimes, dans les guérillas de rue que sont devenues ces échauffourées, sont à déplorer. Parallèlement, les partis de gauche déposent une motion de censure du gouvernement au Parlement, mais le nombre très minoritaire de leurs voix se heurte à la majorité de fait, droite extrême et droite républicaine. Début 2018, le nombre de morts s'établit à près de 200 et le gouvernement décide, sans contrôle parlementaire, l'établissement de l'état d'urgence. Immédiatement sont interdits tout rassemblement et toute manifestation pour quelque motif que ce soit. Le couvre-feu est décrété dans la plupart des grandes villes, avec ses conséquences et interdictions sur les sorties, aux restaurants, aux spectacles, etc. En réponse aux professionnels, qui s'insurgent immédiatement contre ces mesures, économiquement catastrophiques pour eux, le gouvernement invoque le péril imminent à l'encontre de la sécurité et refuse de se prononcer sur une éventuelle date de levée du couvre-feu. Parallèlement, des milliers de perquisitions, pour les motifs les plus divers et certains sans lien avec les émeutes récentes, ont lieu chaque semaine au bon vouloir des préfets, les juges n'étant plus là pour se prononcer sur leur légalité. De nouveau, la presse s'étonne du fait que la majorité des gardés à vue, dans le cadre de ces perquisitions, soient des Français d'origine étrangère et plus particulièrement des musulmans. Mars 2018, le maintien du couvre-feu entraînant nombre de faillites et dépôts de bilan et les chiffres du chômage battant de nouveaux records, nombre de partis politiques, de gauche et d'associations culturelles, d'entraide, cultuelles et de... et de défense des droits de l'homme, appellent, malgré l'interdiction de tout rassemblement, à de vastes manifestations. la présidente MLP, donne l'ordre à l'armée d'empêcher par tous les moyens la tenue de ces rassemblements incompatibles, dit-elle, avec les dispositions de l'état d'urgence. Les responsables politiques et associatifs décident alors le report des manifestations prévues pour éviter, entre guillemets, tout bain de sang. Sont alors envisagés les remplacements de ces rassemblements par d'autres dans des lieux privés, sièges de partis ou d'associations, lieux de culte, etc. Avril 2018. Constatant la tenue de ces premiers rassemblements privés et prétextant toujours le danger qu'ils représentent pour le maintien de l'ordre, la présidente MLP donne des consignes pour assigner à résidence les principaux responsables politiques de l'opposition et associatifs. La presse s'insurge immédiatement contre ces mesures qui constituent, dit-elle, une attaque directe de la démocratie. Dans les semaines qui suivent, les organes de presse contestataires font l'objet de perquisitions, toujours sans contrôle judiciaire. Leur matériel de travail, dont les outils informatiques, sont souvent confisqués, leur interdisant toute poursuite de leur travail. Mai 2018. Les autorités européennes s'inquiètent, sans que pour autant leur protestation aille au-delà de la déclaration verbale, des atteintes aux droits fondamentaux et à la démocratie que représentent les dernières décisions du gouvernement MLP. Les associations de défense des droits humains appuient ces déclarations européennes, bientôt suivies par nombre de mouvements religieux. Juin 2018, le gouvernement décide, toujours grâce à ses prérogatives définies par l'état d'urgence, la dissolution des principales associations contestataires et la fermeture de nombre de lieux de culte, essentiellement des mosquées. Les responsables religieux ou autres qui osent encore lever la voix sont alors immédiatement intimidés ou agressés par de mystérieuses ligues citoyennes de l'ordre public, sans existence vraiment légale, mais aux méthodes expéditives. Certains éléments laissent penser que certains policiers, qui peuvent porter leurs armes en dehors des heures de service, encadrent bénévolement ces ligues. Été 2018, malgré l'ensemble des mesures hautement répressives décidées depuis un an par le gouvernement MLP, des accrochages violents continuent de se produire régulièrement entre partisans et opposants politiques, et le nombre des victimes, maintenant tenues secrets par les autorités, dépasse probablement le millier. Septembre 2018, après des débats houleux, le Parlement européen vote, à une large majorité, l'exclusion de la France de l'Union européenne pour non-respect des engagements en matière de démocratie et droits fondamentaux. La presse britannique et allemande titre « Faudra-t-il une nouvelle révolution en France pour rétablir l'état de droit ?» Voilà, c'était ma petite politique fiction. Tout ce que je vous ai raconté là, je vais rechercher mon autre papier. Tout ce que je vous ai raconté là, je n'ai absolument rien inventé. Ce sont les mesures qui sont prévues dans l'état d'urgence. C'est-à-dire que l'interdiction, décidément, j'ai perdu un papier. L'interdiction de faire des rassemblements, l'interdiction de manifestations, le fait qu'il y ait des perquisitions, je vous les cite peut-être, mais je ne vais pas en oublier. Le fait qu'il y ait, voilà, je les ai retrouvés. Donc les mesures de l'état d'urgence, c'est ça. Il peut être décidé donc maintenant directement par le gouvernement. Je précise qu'il n'y a plus besoin de passer par le Parlement. Nouveauté. Et il peut être décrété pour péril imminent à l'encontre de la sécurité publique ou cas de calamité publique. Avec des notions aussi vagues, on peut en faire n'importe quoi. Donc il permet d'instaurer un couvre-feu. Il permet des perquisitions sans l'aval de la justice. Il permet l'assignation à résidence sans date de fin. Il permet de fermer des lieux dangereux sans l'aval de la justice, de dissoudre les associations, d'imposer le port du bracelet électronique, et il donne droit aux policiers de porter leurs armes en dehors du service. Enfin, il permet d'interdire, à la bonne volonté du gouvernement, toutes sortes de rassemblements. Voilà. Et bien, c'est ce qui vient d'être voté par le Parlement, enfin, qui est en train d'être voté par le Parlement, et c'est les mesures qu'on veut faire entrer dans la Constitution et qui s'appellent les mesures d'état d'urgence. Alors nous, évidemment, à Amnesty, on se dresse sur les quatre fers en disant que c'est absolument incompatible avec la démocratie, que ces mesures-là, effectivement, ne peuvent être envisagées que dans un cas d'extrême, période dangereuse pour l'État, comme on a connu au mois de novembre, mais absolument pas de façon pérenne. Et je vais vous lire juste un petit texte là qui permet de bien comprendre. C'est un petit texte, un petit communiqué qui est sur le site d'Amnesty et qui permet de bien comprendre le sujet. Et qui dit « état d'urgence vers un régime d'exception permanent ?» Point d'interrogation. Après 3 mois d'état d'urgence en France, ce régime exceptionnel est au cœur des débats parlementaires. De sa prolongation à son inscription dans la Constitution, explication. À partir du 5 février, les députés examineront un projet de loi constitutionnelle du gouvernement. Ce texte comporte 2 articles, l'un sur l'état d'urgence et le second sur la déchéance de nationalité. Par ailleurs, le président de la République a annoncé sa volonté de prolonger l'état d'urgence au-delà du 26 janvier.
C'est fait.
C'est fait. Effectivement, comme a dit Edith, c'est fait. L'état d'urgence est un régime juridique prévu par le droit international, pacte international relatif aux droits civils et politiques et convention européenne des droits de l'homme. Il autorise un État à déroger à certains droits et conditions, à quatre conditions. L'état d'urgence ne doit pas devenir permanent. Il est une réponse temporaire à une situation de crise. Il est pris en cas de menace exceptionnelle. Les mesures doivent être prises uniquement dans le but de répondre à cette menace. Il ne doit jamais porter atteinte aux droits indérogeables, tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et de l'esclavage, etc. Toute mesure prise lors de l'état d'urgence doit répondre aux critères de proportionnalité et de nécessité. Ces mesures doivent être strictement limitées à l'objectif recherché par la déclaration d'état d'urgence, à savoir la lutte antiterroriste. Les premiers éléments d'enquête d'Amnesty International laissent entendre qu'un grand nombre de mesures ont été prises en France sans contrôle préalable suffisant, sur la base d'éléments non fondés ou discriminatoires. Menaces terroristes sans remettre en cause les libertés fondamentales. De plus, le droit commun permet déjà des mesures de prévention du terrorisme. Le projet de loi tel que présenté par le gouvernement ne répond donc pas aux graves problèmes en termes de droits humains tels que ceux observés depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, disproportion, arbitraire, discrimination notamment. Voilà. Donc ça, c'est le communiqué général d'Amnesty qui est en écho à ma petite politique fiction. Mais encore une fois, j'ai absolument rien inventé. Un État qui aurait des velléités dictatoriales, dirons-nous, peut très bien s'en servir pour faire tout ce que je viens d'expliquer. Donc effectivement, si vous avez envie de connaître ça, moi personnellement, pas du tout.
Non plus.
Pas vraiment.
Voilà. Je vais juste terminer mon intervention parce qu'on dit toujours effectivement oui, mais bon, comme encore une fois les politiques, oui, mais il faut lutter contre les terroristes. Ça, on est tous d'accord qu'il faut lutter contre les terroristes. Ça, bien évidemment. Mais les armes pour lutter contre le terrorisme, il y en a déjà une flopée absolument et qui est répertoriée là sur le dossier de la
chronique.
Sur le dossier de la chronique. Je rappelle toujours la chronique, le mensuel d'Amnesty. Vous pouvez vous abonner en ligne, www.amnesty.fr, vous avez un formulaire d'abonnement. C'est une source d'information tout à fait intéressante et renouvelée tous les mois. Donc, et la chronique a fait tout un dossier sur le même sujet, donc évidemment que je ne vais pas vous relire, ce serait beaucoup trop long, mais qui fait simplement, c'est parlant...
Oui, mais ils n'ont pas fait la politique fiction,
ils n'ont pas fait la politique fiction. Ils ont dit ce que je viens de dire, mais par rapport à ce qui se passe tout de suite, mais évidemment avec d'autres mots. Mais ils ont listé, ça c'est intéressant, toutes les lois qui sont intervenues depuis les années 80 pour lutter contre le terrorisme, et la France a déjà un arsenal judiciaire qui est pléthorique par rapport à ça. Année 80, mise en place progressive du plan Vigipirate, activé par période, puis en continu depuis 95. De 2005 à 2012, maintien au niveau rouge avec un pic écarlate en Midi-Pyrénées suite à l'affaire Mera. Depuis, le plan perdure, mais l'échelle de couleur a été abandonnée. 1986, première loi consacrée au terrorisme, peines aggravées pour les infractions en relation avec une entreprise terroriste. Centralisation des enquêtes à Paris, garde à vue de 96 heures, 48 heures pour les infractions de droit commun. Avocat à la 72e heure, cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats. 1995, allongement des délais de prescription pour les crimes et délits terroristes. 1996, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui s'appelle en jargon judiciaire AMT, devient un délit puni de 10 ans de prison, possibilité d'effectuer des perquisitions de nuit. On l'a déjà dans la loi, les perquisitions de nuit. Ils nous les ont ressorties encore une fois. 2001, délit de financement du terrorisme, peine de confiscation des biens, contrôle d'identité et fouille de véhicules facilités, disposition temporaire maintenue par la suite. 2004, extension des pouvoirs d'enquête sous l'autorité du juge, écoute, infiltration, sonorisation. 2006, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peut être punie de 20 voire 30 ans de prison. Centralisation de l'application des peines à Paris, garde à vue portée à 144 heures en cas de risque d'attentat, conservation des données de connexion, généralisation de la vidéosurveillance. 2012, poursuite facilitée contre les Français partis à l'étranger pour commettre des actes terroristes ou se former dans des camps d'entraînement. 2014, entreprise individuelle terroriste, interdiction de sortie du territoire, blocage administratif de sites internet. L'apologie du terrorisme quitte la loi sur la presse de 1881 pour rejoindre le droit commun. Peines alourdies, comparution immédiate et détention provisoire possible. 2015, on arrive à la fin. Loi sur le renseignement, légalisation, sans passer par le juge, de nombreuses techniques d'enquête. Pose de caméras et micros dans les lieux privés. Balisage des véhicules. MC Catcher. Alors ça, c'est, si vous savez la réponse, c'est vous que je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, s'il y a des auditeurs qui connaissent la réponse, c'est cité dans le texte. MC Catcher, je ne sais pas ce que c'est. Analyse massive, enfin, ça ne doit pas être très clair. Analyse massive du trafic Internet. Oui, ça, je n'en ai pas parlé dans mon article, on aurait pu le rajouter. 2016, en prévision, une nouvelle loi antiterroriste qui étendrait les pouvoirs du parquet. Voilà. Et avec tout ça, on n'est pas capable, effectivement, d'avoir une action efficace contre les gens qui ont pour but de tirer à bout portant sur des civils.
Ce qu'il y a aussi à noter par rapport à ce que tu disais, c'est aussi ce passage de pouvoir au préfet, donc préfet nommé par le gouvernement, au lieu qu'il reste cette séparation entre le politique et le législatif avec le juge. Ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper dangereux.
Bien sûr, parce qu'il y a une dérive complète du législatif. Il y a quand même, on ne va pas rappeler les trois pouvoirs qui font une démocratie, législatif, judiciaire et exécutif. Et il y a une dérive complète mise à l'écart du législatif au profit de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va décider de choses qui ne sont pas de sa compétence.
Voilà, et là, c'est très dangereux pour nos libertés.
Ah, ça, c'est clair. Et encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est dans un contexte bien particulier, hein, l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui n'est pas vraiment une démocrate. Hein, MLP, c'est pas difficile à comprendre qui c'est.
C'est tous les dangers qu'il peut y avoir, une mauvaise lecture et une mauvaise utilisation de ce texte-là, s'il devenait permanent.
Voilà, mettre l'état d'urgence de façon permanente, eh ben, c'est lui, si jamais elle arrivait au pouvoir, cette brave dame, c'est lui savonner la planche pour effectivement qu'elle puisse faire tout ce qu'elle aurait envie de faire contre la démocratie et contre les droits fondamentaux, mais sans même passer par les représentants du peuple, c'est-à-dire le Parlement. Voilà, donc chapeau les gars du gouvernement.
Ça m'a fait penser à l'Espagne il y a quelques années.
Je pense, oui. Tout à fait, c'est exactement, c'est toujours pareil.
Mauvais souvenir.
Et pour conclure ce petit dossier, je vais reprendre toujours dans ce dossier, encore une fois, je vous le conseille, hein, ce dossier de la chronique de ce mois-ci, hein, de février 2016, la chronique d'Amnesty, sur le même sujet. Et c'est l'interview de la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, donc un magistrat, Laurence Plisson, qui sait bien de quoi elle parle. Et je vous lirai simplement sa dernière remarque, hein, de l'interview. On lui pose la question « Pensez-vous que l'on sortira de l'état d'urgence ?» On nous dit que la menace terroriste est en réalité permanente. On peut penser que l'état d'urgence, prévu pour être temporaire, finira, même si c'est dans 6 ou 9 mois. Ce qu'on combat, c'est l'effet de cliquer. Des dispositifs toujours plus dérogatoires sont introduits au nom du terrorisme et contaminent ensuite le droit pénal général. Il n'y a jamais de retour en arrière, ni même d'évaluation de leur efficacité. Finalement, on s'y accoutume. Voilà. Eh ben non, qu'Amnesty, effectivement, on ne s'y accoutumera pas. Et nous, on tire la sonnette d'alarme avant que les catastrophes se produisent.
Et
c'est quand même plus
seul.
Intelligent.
Voilà.
Et on n'est pas seul. Alors là, il est 19h22 à la pendule. Il y a une réunion qui vient de commencer. Là, on n'y sera pas, mais enfin, on a quelqu'un d'Amnesty qui va nous représenter. On en refait un petit peu de publicité. Et à la fin de l'émission, écoutez-nous jusqu'au bout, mais à la fin de l'émission, je pense que la réunion ne sera pas finie. Allez à Gravigny, à la salle Gérard Philippe. C'est juste derrière la mairie de Gravigny.
C'est
la salle qui est juste derrière la mairie de Gravigny. Bref, c'est un appel du collectif pour la sauvegarde des libertés et contre l'état d'urgence. Qui est principalement à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, mais Amnesty, on leur a fait un petit courrier aujourd'hui pour dire qu'on allait aussi participer à leurs actions. Voilà. Donc, bien sûr qu'on est aussi sur les initiatives locales par rapport à tout ça. Et encore une fois, l'état d'urgence, oui, pour effectivement prendre des mesures qui permettent d'arrêter les criminels qui ont tué des gens au mois de novembre. On est tous d'accord là-dessus.
Mais absolument pas aucune dérive.
Ça fait déjà 2 fois, là. Hein, voilà. Ça devient...
Voilà. Aucune dérive, et à l'heure actuelle, on est en train d'y aller à fond la caisse, je dirais, pour parler simplement par rapport aux dérives. Et évidemment, ça devient extrêmement inquiétant. Oui. Bon, on avait prévu quoi après
peut-être un peu de musique, un petit drame.
Renan n'a pas l'air d'accord. On a un conflit entre nous.
Pause musicale.
Alors, on va vous parler un peu pour...
Oui, non
Voilà, non, c'est Renan, souffler un peu.
C'est Renan qui a raison, mais ce n'était pas prévu comme ça. Il y avait Edith qui devait parler.
Est-ce que Didier, quand il parle, il dit non, j'en ai juste un tout petit peu à parler.
Vous, je vais préparer. Je peux passer la musique, mais non. Mais normalement, le CD avait un rapport avec ce qu'il allait parler.
Voilà,
donc je passe avant.
Oui.
On va passer au deuxième sujet.
Bien
alors,
vu.
Je vais m'y coller.
Bien vu, monsieur le réalisateur. Ça, c'est un travail de pro à la radio. Effectivement.
Voilà,
on a fait le conducteur, moi je le suis.
C'est bien, voilà. Bon. C'est parce que besoin un petit peu d'une petite...
Oui, bah, je sais.
Alors moi je vais vous parler d'un film qui est sorti le 17 février, qui s'appelle L'homme qui répare les femmes. Peut-être qu'on aura le plaisir de l'avoir sur Évreux.
On va essayer. On vous tiendra au courant.
Qui passe à Rouen, hein, on oui, sait, au niveau de la région. Je crois que c'est le plus proche.
À Brest aussi.
Mais à Brest, mais c'est pour les Bretons. Voilà.
On va contacter la direction du cinéma. On va essayer de s'organiser quelque chose.
Alors, ce film, il raconte la vie actuelle du docteur Mukwege, qui a eu le prix Sakharov 2014. C'est un homme qui répare des milliers de femmes violées depuis au moins 20 ans lors des conflits dans la République démocratique du Congo. Ce pays, qui est un pays très riche, avec un sous-sol, avec plein de minerais, mais qui est, pour les gens qui y habitent là-bas, très pauvre. Alors, ce docteur mène une lutte incessante pour mettre fin aux atrocités des femmes et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables. Il est menacé de mort. Il vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des casques bleus des Nations Unies. Alors, je vais vous lire son discours qu'il a prononcé lors de la remise de son prix, parce que je pense que ça résume bien la situation des femmes en RDC. Et puis après, je vous ferai un petit rappel historique de l'arme du viol en tant que guerre. Alors, ce qu'il dit, donc je suis un peu émue de parler avec ces mots, mais c'est... Donc, Monsieur le Président du Parlement européen, messieurs, mesdames, les représentants des peuples de l'Union européenne, c'est avec beaucoup d'humilité et un grand espoir que je reçois aujourd'hui le prestigieux prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Je tiens avant tout à remercier les élus des peuples européens pour mettre en lumière les tragédies humaines que vivent les femmes victimes de viols et de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un monde d'inversion des valeurs, où la violence se banalise en prenant des formes toujours plus abominables, refuser la violence, c'est être dissident. Par ce prix, vous avez décidé d'accroître la visibilité du combat mené par les femmes congolaises depuis plus de 15 ans et de reconnaître leur souffrance, mais aussi leur dignité et le courage qu'elles incarnent. Monsieur le Président, la région où je vis est l'une des plus riches de la planète. Pourtant, l'écrasante majorité de ses habitants vivent dans une extrême pauvreté liée à l'insécurité et à la mauvaise gouvernance. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. La cellule familiale est désagrégée, le tissu social détruit. Les populations réduites en esclavage ou acculées à l'exil dans une économie largement militarisée où la loi des seigneurs de guerre continue à s'imposer en l'absence d'un état de droit. Nous sommes donc face à une stratégie de guerre redoutablement efficace. Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes semblables sont victimes. Mais comment me taire quand depuis plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer à voir ? Comment se taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée à ma mère. Et chaque enfant violé à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire ? Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées et d'autres milliers d'enfants nés du viol, en plus des millions d'êtres humains morts suite au conflit. Dans le reste du monde, chacun se soulèverait d'indignation. Dans la société congolaise, en perte de repères, les atrocités de masse passent dans l'actualité comme de simples faits divers, signe désolant d'une société traumatisée par trop de violence, d'une absence de responsabilité politique et d'une négation de notre humanité commune. Il est temps de s'occuper des causes. Des milliers de témoignages de victimes montrent que le peuple congolais a soif de justice, de paix et aspire au changement. Il y a urgence à agir. Les solutions existent et exige une réelle volonté politique. Il n'y aura pas de paix ni de développement économique et social sans respect des droits de l'homme. Chers compatriotes, notre nation, la République démocratique du Congo, nous appartient. C'est à nous, le peuple congolais, de façonner nos lois, notre justice et notre gouvernement pour servir nos intérêts à tous, et pas seulement ceux de certains. Le prix Sakharov que nous recevons du Parlement européen est le vôtre, et il est le symbole de la liberté de penser. Un droit qui nous a été retiré, un droit auquel, suite à la terreur et l'oppression, nous semblons parfois avoir renoncé. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis, de par le monde, nous pouvons et nous devons le soigner. Voilà, c'est pas souvent que je lis un discours, mais j'ai trouvé qu'il résumait...
C'est un très beau texte.
Voilà, la vie de cet homme, et bon, c'est un film qui est soutenu par Amnesty, et pour l'avoir entendu à certains, bon, c'est un personnage qui va aussi à l'étranger, donc qui va parler des conditions des femmes en RDC, mais qui a aussi fait se relever des femmes en RDC. Et il est suivi par ces femmes qui veulent absolument, elles, faire changer l'État. Et quand on sait la situation politique de ce pays et la violence des milices qui sont présentes, milices non gouvernementales, voire milices qui ont été incluses dans la force de l'armée, mais qui n'ont pas du tout été déjà punies pour des crimes. Et donc, ce sont des gens qui sont dangereux, qui font peur à la population. Et c'est l'état du RDC actuellement.
Bien sûr. Et malheureusement, ce n'est pas le seul pays, mais c'est particulièrement flagrant chez eux. Et donc, restez à l'écoute de la radio quand on aura trouvé une date avec le cinéma. Mais c'est sûr qu'on va le faire. On fera une soirée Amnesty autour de ce film. Donc, restez à l'écoute de la radio qui passera l'information. Et puis, lisez la presse aussi. Enfin, on fera le nécessaire pour que vous soyez informés. Et puis, pour que vous puissiez venir effectivement à cette soirée qui ne manquera pas d'être très intéressante, je pense.
Voilà. Alors donc, comme Amnesty fait bien les choses, après avoir...
On essaye.
Il nous donne beaucoup de documents et de beaucoup d'informations. Eh bien, moi, j'ai eu envie d'aller voir un peu les documents qui étaient autour de la sortie de ce film. Et donc, un qui parle du viol en période de conflit. Et j'ai envie aussi de le partager avec les auditeurs parce qu'il est aussi très révélateur du sort des femmes dans le monde dans les années qui sont passées et actuellement. Alors si on part, un petit peu d'histoire. Pendant les siècles, le viol en période de conflit a été tacitement accepté comme inéluctable et malheureux dommage collatéral. Alors on va partir, Sabine, tu n'écoutes pas, du viol des Sabines enlevé par les Romains.
De l'enlèvement des Sabines.
Voilà, mais Sabine, elle est restée là, elle est à côté de moi, je vous rassure.
Comment on m'a pas enlevée.
Mais... Oh. Les Romains, donc,
ils n'auraient pas voulu de moi.
Quel drôle de jeu de mots.
Ce moment-là, les femmes étaient considérées comme une part légitime du bulletin de guerre, comme des récompenses.
Butin,
oui, merci madame. Accordées aux vaillants vainqueurs. Alors, il y a eu une première tentative en 1919. Georges Clemenceau, alors président du Conseil des 10 de la Conférence de paix de Paris, se vit remettre une pétition initiée par les femmes américaines contre le viol de guerre. Il n'y aura pas de suite. Alors, pendant les grands procès de guerre, Nuremberg, Tokyo, Auschwitz, à aucun moment les violences sexuelles ont été ont été assimilées à des crimes de guerre. Le viol pourtant participe à la guerre. Au travers du corps des femmes qu'il brise, il terrorise la population, anéantit les familles, détruit les communautés. Certes, il ne s'agit pas d'une réalité nouvelle, mais ce fut longtemps le silence. Au Guatemala, dans les années 1980, les femmes indigènes ne songèrent pas à alerter les enquêteurs internationaux, tellement il leur semblait normal d'avoir été violées par l'armée. Alors il faudra attendre les années 1990 pour que l'opinion internationale se réveille en découvrant soudain le viol de masse. C'est le conflit bosniaque, 1992-1995, qui révèle la pratique des violences sexuelles comme un instrument de nettoyage éthique. Cette guerre marqua le début de la judiciarisation
du vol. Il y a des mots compliqués chez Amnesty International, dis donc.
J'ai un peu surligné, il m'en manquait un morceau. Du viol systématique.
Je me suis moqué d'Edith, je voyais se planter dans le mot.
Il m'en manquait un morceau.
Judiciarisation.
Voilà, ouais. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, attention, c'est ça qui est important, déclara que la détention et le viol massif organisé et systématique des femmes En Bosnie, il y en a eu au moins 60 000. Et c'était en particulier des femmes musulmanes.
C'est récent quand même. Comme...
Mais tout à fait, c'est ouais, pour ça que ça vaut le coup. Je suis vraiment étonné de redire ça.
Parce que moi, on m'aurait fait un quiz là-dessus, j'aurais dit que ça datait comme de plus vieux que ça. Quoi.
En Bosnie-Herzégovine, donc c'était le viol des femmes musulmanes en Bosnie-Herzégovine. Excuse-moi, voilà, j'ai mis un blanc entre les deux. Par la suite, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie parla pour la première fois de torture. Et inclut le viol parmi les crimes contre l'humanité et parallèlement à d'autres crimes comme l'extermination. Voilà, donc tu peux dire là, Ronan, ça fait 90, un peu plus
tout
après.
Tout à fait.
Après, en 94, c'est le Rwanda. Entre 100 000 et 250 000 femmes ont été violées durant les 3 mois de génocide. On évalue à plus de 60 000 le nombre de femmes et de jeunes filles à avoir été victimes de viol pendant la guerre civile en Sierra Leone, 1991 jusqu'à 2002. Plus de 40 000 au Liberia. Entre 1989 et 2003, et au moins 200 000 en République démocratique du Congo depuis 1996, dont est le docteur Mungawe. Quant à la Tchétchénie, l'ampleur des maltraitances sexuelles infligées entre 1999 et 2003 est difficile à établir. Mais on sait que des milliers de femmes ont été violées dans les prisons illégales, les camps de filtration ou lors de pillages de villages. Seuls quelques soldats de rang assez bas ont été jugés après la guerre. Si aucun chiffre définitif n'est connu sur l'utilisation de viols comme arme de guerre en Libye, des témoignages confirment qu'ils faisaient partie de l'arsenal des pro-Kadhafi. Et selon le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Morero Ocampo, le dirigeant libyen, aurait commandité des viols de masse afin de terroriser la population. À cette liste s'annonce, parmi tant d'autres, le Soudan, du Sud, le Tchad, la République centrafricaine, le Népal, le Sri Lanka, la Côte d'Ivoire, le Timor-Leste, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, la Syrie, sans oublier les victimes de Daesh et de Boko Haram. Comme le rappelle le rapport des Nations Unies de 2013 sur la violence sexuelle comme outil de guerre, même après la fin d'un conflit, les impacts de la violence sexuelle persistent, notamment les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles et la stigmatisation. Une violence sexuelle généralisée peut elle-même continuer, voire augmenter au lendemain du conflit du fait de l'insécurité et de l'impunité. Alors bon, en 2015, il y a eu une journée internationale de décider pour l'élimination des violences sexuelles dans les conflits. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir un peu cette historique et de se rendre compte que, au lieu de s'arrêter, elle continue même si les textes existent maintenant.
Oui, d'où l'intérêt de continuer aussi à agir. Etc, etc, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on est sur l'antenne de Principe Actif. Dis donc, on va peut-être écouter un peu de musique.
Voilà, maintenant parce que un peu de musique, on a dépassé, parce que ça correspond
on a dépassé
à ce qu'on a dit.
Une demi-heure d'émission sans musique. Ça
désolé,
fait long.
Désolé, désolé. Voilà, alors musique.
Comme un rocher qui dure sous les gifles du sel. Comme un arbre solide sous les trombes d'eau. Comme un fruit qui mûrit après des nuits de gel. Une plaine asséchée qui retrouve de l'eau. Comme un acte d'amour pour les enfants qui rêvent. Comme un sursaut de rage de vivre malgré tout. Comme une force vive dans les plus petits gestes. Une promesse tenue, une promesse de fou. Thank you.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. On était trois, on s'apprêtait tous à parler en même temps.
On avait la bouche ouverte.
Vous n'avez pas l'image, mais je peux vous dire ce qui se passe dans le studio. On s'est tous précipités sur les micros à la fin de Jeanne Chéral. C'est ça, Sabine ?
Vas-y. Oui, Sabine, et femme debout et on le reste. Ah, et on aimerait bien que les hommes aussi
là.
Soient debout.
Bah, de toute façon,
et les enfants.
Et Didier, qu'est-ce que tu penses ? On va partir donc. Ouais.
Non, mais je rappelle qu'Amnesty ne parle plus de droits de l'homme, mais parle de droits humains.
Tout à fait.
Voilà.
Justement, ça, justement. Et les droits des enfants aussi, on aimerait bien qu'ils
alors,
soient,
tu vas nous faire
soient respectés aussi.
Un rappel actualité
dans ce pays
français.
C'est Sabine qui va vous parler
donc,
des réfugiés.
Ne pas oublier les enfants. Hein, il faut qu'une photo comme celle du petit Elan fasse la une des médias pour qu'on parle des enfants dans le flux des migrants et des réfugiés qui arrivent en Europe. Hein. Et puis, très vite, on oublie. Hein, trop vite. Alors que tous les jours, des enfants continuent à perdre la vie. Cette réalité dramatique ne doit pas nous faire oublier le sort de ceux qui ont échappé à la mort. Sans avoir un décompte exact, on sait que la proportion d'enfants parmi les réfugiés est très importante. Un quart, un tiers, hein, à Calais, il parlait de 300... de 3000, enfin d'un tiers d'enfants.
D'enfants accompagnés ou des enfants non accompagnés ?
Accompagnés et non accompagnés.
Voilà, des enfants avec leurs parents.
Des enfants isolés aussi, il y en a énormément. Hein, ces enfants ont déjà traversé des épreuves terribles. La guerre, des conditions de vie dans les camps de multiples traumas. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, vas-y. C'est
de vrai. La route, les traumas qu'ils ont traversés au cours de la route, l'exil, la faim, le froid, l'épuisement. La peur, la violence des passeurs, les bandes qui rançonnent et terrorisent, la succession d'espoirs et de déceptions devant les obstacles mis sur leur chemin en Europe, qui se transforment rapidement en forteresse. Et une fois chez nous, eh ben, on ne les accueille même pas. Qu'il s'agisse de mineurs isolés, qui courent tous les dangers, ou qu'il s'agisse d'enfants avec leurs parents, parfois un seul, le plus souvent la mère. À côté d'adolescents, on compte le nombre de jeunes enfants, certains nés durant la route. Combien arrivent dans le dénuement le plus complet, se retrouvent à la rue, dans un pays inconnu dont ils ne parlent même pas la langue. Alors il y a urgence. Nécessité d'assistance à personnes en danger, à mineurs en danger, à enfants en danger. Urgence à les mettre à l'abri, à leur offrir un toit, à les vêtir pour l'hiver. Urgence à leur dispenser des soins dont ils ont besoin, non seulement les plus visibles contre les maladies, la malnutrition, mais aussi des soins de tout ce qu'ils ont vécu, ce qui a été enfoui, lié à tout ce qui leur est arrivé. Il faut lire les récits de ce qu'ils ont pu vivre dans les pays qu'ils ont fui, qu'ils ont traversé, les camps où ils se sont posés. Ils sont ici probablement pour longtemps et ils ont droit à ne pas être laissés en déshérence. À ce qu'on se préoccupe de leur avenir, qu'on leur donne les moyens de choisir, à commencer par l'éducation et une scolarité normale. Comme tous les enfants, ils ont besoin et le droit de bénéficier ici et maintenant de tous les droits énoncés dans la Convention relative aux droits des enfants. Et eux plus que d'autres d'ailleurs, puisqu'ils ont tout perdu. Chaque jour, ces enfants deviennent des réfugiés. Ils fuient leur pays parce qu'ils sont en danger ou ils suivent leur famille. S'ils restent, ils risquent d'être maltraités du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, des opinions politiques, de leurs parents. Ils fuient parce que leur pays est déchiré par la guerre, pas par souhait ou par envie, ou par choix, pardon. Mais les enfants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils ont peur. Ils se sauvent. Ils emmènent peu de choses avec eux, juste ce qu'ils peuvent porter. Souvent, il n'y a pas assez de place pour leur objet préféré ou pas assez de temps pour les emporter. Parfois, les enfants s'enfuient avec, pour tout bagage, leurs rêves et leurs espoirs. Ils n'ont plus de maison ni de pays. Ils ont quelquefois perdu leur famille. On leur a tout simplement volé leur enfance. Ils manquent de nourriture, de soins médicaux, d'école. Et ils naissent, ils meurent dans une indifférence totale. À Calais, certains médecins, certaines personnes qui ont visité le camp ont parlé de camps, de non-droits, de cités de non-droits. Ces camps de réfugiés du jamais vu, un chaos total, laissés complètement...
Il y a eu une commission d'Amnesty qui est allée à Calais il n'y a pas longtemps, oui. Effectivement. Il y a des documents.
Oui. Les gens sont complètement dans l'abandon total. Hein. Alors, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles, dont des bénévoles aussi qui viennent d'Europe, de France, d'Angleterre, Allemagne, Suisse, etc., qui se font nommer les no-borders, hein, qui ont été, qui font un travail depuis presque 2 ans, voire plus, parce que ça fait quand même 15 ans que ça dure, hein, et qui viennent aider, porter secours. Y a des gens qui se sont installés également, donc qui font ce qu'ils peuvent à leur petite dose, mais bon, ça reste quand même une situation très préoccupante, où les enfants sont quand même livrés à eux-mêmes, en difficulté, en danger, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment tout seuls et qui sont absolument pas protégés. Donc, quand on sait que ça se passe en France aujourd'hui...
Voilà, on sait qu'il y a une statistique aussi qui dit qu'il y a beaucoup entre le nombre d'enfants qui arrivent à la frontière européenne et l'Italie, voire d'autres pays, il y a beaucoup de jeunes qui ont disparu. On ne sait pas si ont été pris en charge par des communautés de leur pays parce qu'ils étaient seuls ou par des trafiquants ou par des
mafieux. Il y a des trafics d'êtres humains aussi, voire d'organes humains aussi. C'est encore plus sordide. Enfin, c'est au moins aussi sordide.
Voilà, donc ça, c'est aberrant. Donc, il faudrait vraiment qu'à un moment donné, ces enfants, ces gens qui veulent rejoindre le Royaume-Uni, hein, qui tentent de gagner le Royaume-Uni au péril de leur vie et de leur sécurité. Alors, pourquoi veulent-ils passer à tout prix ? La plupart du temps, tout simplement, parce qu'ils veulent se réunir avec leur famille.
Oui, c'est le regroupement familial.
Voilà. Où le père est parti avant, ou le fils, enfin, ou une partie, ou l'oncle, ou ce qui leur reste de famille, de gens qu'ils aiment et qui ont de l'importance. Et le seul espoir qui leur reste, en fin de compte, donc c'est une aberration que la France et l'Angleterre ne puissent pas, enfin que les politiques n'arrivent pas à un moment donné à se mettre autour d'une table et se disent voilà, ça fait 15 ans que ça dure, maintenant ça suffit, qu'est-ce qu'on fait ? Hein, parce qu'il y en a quand même qui essayent de passer, qui risquent leur peau. Il y a un gamin encore de 16 ans qui a été complètement écrasé par un train. On a reconnu le môme grâce à sa montre. Un copain a vu la montre et il a pu l'identifier. Enfin voilà, faut arrêter parce que voilà, c'est leur souhait, c'est leur envie de retrouver les leurs. Donc et ce sont quand même des mineurs.
Oui, donc les mineurs, on leur doit protection. Oui. La France là est vraiment en tort sur les mineurs de Calais. Il n'y a pas assez de place.
De protéger des enfants.
D'hébergement.
Voilà. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Donc, par contre, là, effectivement, demain, ils devaient évacuer partie.
Pour l'instant, la décision
est repoussée.
Est en attente du jugement.
Qui porte bien son nom, mais bon, en attendant, il y a eu beaucoup de comédiens, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi. Donc peut-être qu'effectivement, c'est repoussé pour peut-être évacuer un moment où les gens seront un petit peu plus tranquille et un petit peu moins en garde. Donc voilà, il faut absolument qu'ils arrivent à prendre leurs responsabilités.
De toute façon, ce qu'on demande avec Amnesty et ce que demandent les autres ONG qui s'occupent du problème, c'est simplement le respect des différents traités qui ont été signés par les États européens, par la France, enfin, etc., de protection des mineurs, de protection des réfugiés. Et on ne demande rien d'autre que l'application de ces textes. Encore une fois, c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir, c'est une question de respecter sa signature et son engagement.
Tout à fait.
Donc, il y en a un petit peu assez que des gens parlent de choses et fassent exactement le contraire.
Mais il faut aller au-delà. Alors, vu le temps, j'avais plein de témoignages d'enfants, mais
on va manquer de temps.
On ne va pas pouvoir. Mais n'empêche que les Anglais, les Français, il va falloir qu'ils se mettent d'accord.
Voilà, là, c'est vraiment la demande.
Il faut qu'il y ait de l'information, il faut qu'ils connaissent leurs droits, parce qu'ils arrivent, ils ne savent pas. qu'on leur dise les choses et qu'il y ait un accompagnement juridique et humain, un petit peu plus humain parce que l'eau, etc., enfin, on en reparlera. Donc moi, je vous demande d'aller tweeter pour que la France et le Royaume-Uni agissent. Donc allez interpeller le ministre de l'immigration du Royaume-Uni et le ministre de l'Intérieur français sur Twitter.
Oh, je pense voilà. que c'est d'Amnesty d'avoir
allez-y,
un lien de Twitter.
Allez-y, vous allez oui, absolument.
C'est sur le site d'Amnesty.
Oui, c'est sur le site d'Amnesty, parce que Twitter, ça ne veut rien dire.
Oui, oui. Vous allez caler et vous tweetez.
Il y a l'action en ligne, ouais. effectivement. Ça me fait penser que moi, j'ai oublié de vous dire dans une petite chronique sur l'état d'urgence qu'il y avait bien sûr aussi la pétition en ligne sur le site d'Amnesty, toujours, destinée aux parlementaires français. Donc n'hésitez pas, www.amnesty.fr, allez signer la pétition en ligne. C'est en faisant masse par rapport à ces procédures iniques, dirons-nous, qu'on pourra faire reculer le gouvernement et les députés.
Et nous, absolument. On va les interroger.
On les interroge, oui. Voilà. On leur envoie des lettres aussi.
Voilà. Alors, ce qui est très curieux aussi, c'est qu'ils cherchent quand même à partir dans des conteneurs. Et là, ce qu'on leur propose pour les loger,
les réfugiés.
Les députés, on devrait peut-être les mettre dans les conteneurs quelques jours avec les réfugiés. Peut-être qu'ils se rendraient compte du confort.
C'est sûr que ça leur fera voir autrement la réalité.
C'est quand même... Un réceptacle un peu spécial.
Mais on va vous dire, on a un super suivra. Dossier sur les réfugiés. Il y a des infos, on ne sait plus
on
laquelle
suivra,
vous donner.
On
suivra,
on vous donnera des témoignages.
Là aussi, vous avez plein d'infos en ligne sur le site. Hein, n'hésitez pas.
www.amnesty.fr.
Et là, justement.
Et on va continuer à les suivre.
Justement, parlant de pétitions, il faut faire des pétitions. L'entre les mains, j'ai la dépêche des actions urgentes, donc il y a un petit journal qu'on reçoit tous les 3 mois. Donc, en fin de compte, qui relate les actions urgentes qu'on écrit durant l'année ou les mois qui sont passés et les résultats qui sont positifs. Donc, je vais quand même vous en lire un.
Une bonne nouvelle.
Donc, c'est pour prouver que la pétition qu'on écrit, ça marche.
Une bonne nouvelle avant les crapules.
Et en plus, pour faire plaisir, pas faire plaisir spécialement à Sabine, mais je suis parti sur le Mexique. Je sais que le Mexique, t'es toujours... Donc, soupçonné d'être un trafiquant de drogue important, Adrián Vázquez Lagún, 33 ans, avait été arrêté, torturé par les policiers, puis détenu plus de 3 ans près de Tijuana.
Tijuana.
Il a été libéré de prison sans condition. Amnesty International a mené une action en faveur de sa libération dans le cadre de la campagne mondiale Stop Torture. Après sa libération, Adrián Vázquez a fait part de son sentiment. Je rentre chez moi. Je n'ai appris qu'il y a que quelques heures que j'allais le libérer. Un grand merci à toute l'équipe d'Amnesty. Je suis très reconnaissant et très heureux. Vous m'avez tellement soutenu. Je vous transmets toutes mes amitiés. Donc, une fois de plus, ça prouve que ça marche.
Oui. Ouais. On va peut-être mettre 10 secondes de musique. Mais vraiment 10 secondes. Parce que
20 secondes.
Parce que là, on a encore quelques infos et on est pris par le temps.
Peut-être même pas.
I wanna drive my car. I wanna drive my car. Further and further on down the road. I wanna drive my car. I need a place to go. I need a place to go. Further and further on down the road, I need a place to go. I gotta find my way. I gotta find my way. Further and further on down the road, I gotta find my way.
Se remet debout.
Donc c'était Neil Young.
Désolé pour Neil Young.
Voilà, qu'on a abrégé, par manque de temps, mais que ça fait
on
un petit peu.
Ouais.
Je ça pense fait du bien d'écouter Neil Young.
Je pense que Neil Young nous comprendra. Bon.
Oui, il est avec nous.
Revenons-en à l'actualité.
Il attaque une nouvelle tournée,
Amnesty International. C'est toujours le groupe d'Amnesty Évreux jusqu'à 8h. Donc on a encore 5 minutes d'antenne. Nos actualités locales, on finit toujours par ça. On ne va pas déroger à la règle. Nos prochains rendez-vous, on a deux rendez-vous au mois de mars, donc très bientôt. Un premier rendez-vous, c'est un jeudi, 17 mars. Alors, ce n'est pas directement à Évreux,
c'est
au Forum, c'est au Théâtre du Forum à Louviers. Enfin, c'est pas loin, hein. Au Théâtre du Forum à Louviers, donc c'est à propos de la pièce qui s'appelle « Soudain la nuit ». Qui est une pièce consacrée, alors je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais qui est une pièce consacrée aux problèmes des populations migrantes. Ça se passe dans un aéroport et c'est des gens qui se retrouvent, en gros, on peut dire, coincés entre deux avions. Deux avions.
Nous, on sera là.
Et soumis à un tas de problèmes par rapport au fait qu'ils sont en transit et ça pose des problèmes des populations migrantes sous une forme théâtrale et artistique. Voilà. Donc on sera là.
La pub d'une agence de voyage, non?
Attends,
Sabine.
Donc, il y a Sabine qui vend la mèche.
Il y aura un doublé amnistien.
Oui, alors le 17, il y a un doublé amnistien parce qu'il y a nos amis de Louviers qui sont présents aussi au forum, mais du côté cinéma. Le forum, il y a un cinéma et un théâtre. Donc, nous, on sera du côté théâtre, mais comme ici, très efficace. Nos amis de Louviers seront du côté cinéma pour une soirée consacrée à un très beau film sur les massacres des populations au Cambodge sous les Khmer Rouges. Et le film s'appelle. C'est un film très poignant, mais très beau. C'est en fait un film de montage, c'est pas un film d'actualité. Un film de montage et le film s'appelle L'image manquante. Donc Amnesty Évreux pour l'image manquante, Amnesty Louviers pour l'image manquante et Amnesty Évreux pour Soudain la nuit. Donc, tout ça le 17 mars à Louviers, au Grand Forum. Autre actualité, c'est ce que vous a dit Sabine, un peu trop en avance.
J'ai rien dit.
Le 19 mars, à 19 mars. Alors, on n'a pas tout calé. Suivez l'actualité, lisez les journaux, écoutez Principe Actif qui vous donnera plus d'informations dès qu'on aura calé un peu tout ça. Mais il y aura une action par rapport à une action d'Amnesty qui s'appelle Crapule les vacances.
Voilà, il faut prendre son billet pour Crapule les vacances.
Voilà.
C'est une agence de voyage très spéciale.
Voilà, un terme à l'impunité dont bénéficient en France les responsables politiques, responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
En France, Sabine.
C'est la loi française qu'il faut changer.
Voilà. Ça ne vise que la loi française qui leur permet d'échapper à toute arrestation éventuelle.
Alors, vous avez failli avoir un joli petit clip, mais on n'aura pas le temps. Chercher sur le site d'Amnesty, allez les curieux, allez voir.
Donc, ça s'appelle Crapule les vacances, ce sera le samedi 19. Suivez les médias locaux, vous aurez plus d'informations. Et puis, notre prochaine émission, c'est le mardi 29 mars. Le lendemain du lundi de Pâques.
C'est juste une information comme ça.
Voilà. Et puis, dernière petite information, on n'a pas le temps de vous en parler beaucoup, mais je sais que Edith y tenait. Il y a une pétition très originale, une pétition pour le silence qui est sur le site de Primo Levi. Primo Levi, c'est un organisme qui s'occupe de soigner les gens qui ont été victimes de torture.
Et on considère que les gens qui ont été torturés ont la tête tellement prise par tous les bruits des violences qu'ils ont subies que là, on peut leur offrir une minute de silence.
Voilà. Alors, c'est une action à faire en ligne sur le site de Primo Levi. Le site, c'est www.primolevi.org. Et c'est l'organisme Primo Levi est soutenu par différents organismes, dont Amnesty International.
Le travail de Primo Levi.
Voilà, c'est une pétition silencieuse en hommage aux gens qui sont victimes de torture.
Offrir du silence aux gens qui ont été torturés.
Voilà. Donc on vous rappelle nos rendez-vous 17 mars à Louviers avec le groupe de Louviers aussi. Avec la scène nationale, pour Soudain la nuit, et le 19 mars, Crapule les vacances, quelque part dans Évreux. Renseignez-vous au mois prochain.
Une petite pensée pour Naji Djerf, journaliste syrien qui a été assassiné en décembre. Bonsoir.
On peut pas l'arrêter, Sabine.
Allez, bonsoir à tous, au mois prochain.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience.